Et dans l'actualité des idées, et donc de cette dernière partie de la Grande Table aujourd'hui, François Hollande, victime de la République présidentielle, c'est une question. Il renonce, ça c'est sûr, c'est une affirmation. La décision de François Hollande serait donc une première dans l'histoire de la Ve République, la première fois qu'un président décide volontairement de ne pas se représenter pour un second mandat. Lucidité et respect, ou triste épilogue dans le sillon d'une impopularité record, pouvait-il en être autrement ? Qu'est-ce que cette décision nous dit de l'état de la fonction ? Avec nous pour en parler, notre invité, l'historien Nicolas Rousselier, maître de conférence à Sciences Po Paris, auteur notamment de La force de gouverner, un ouvrage paru l'an passé chez Gallimard, dans lequel vous retracez, Nicolas Rousselier, les évolutions du pouvoir exécutif en France depuis le 19e, en mobilisant beaucoup de disciplines et aussi les représentations, les idées et les institutions. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Il renonce. Quelle a été votre première lecture à chaud de cet événement, Nicolas Rousselier ?
La première lecture à chaud, je le dirais d'une façon un peu humoristique, c'est que j'étais très vexé parce que personnellement, j'avais prévu qu'il soit candidat. Et donc, j'étais un peu vexé d'avoir dit autour de moi...
Pourquoi vous avez dit ça ? Pourquoi ?
Parce que il me semblait que depuis le dimanche soir où Fillon avait été élu dans les primaires, c'était une bonne nouvelle pour François Hollande parce qu'il pouvait l'attaquer sur au moins deux points, ce que ne manquera pas de faire les autres candidats de gauche, bien sûr. C'est-à-dire qu'il pouvait attaquer François Fillon sur l'aspect sociétal et puis aussi sur l'aspect du programme de François Fillon concernant le social, la sécurité sociale, la baisse du nombre de fonctionnaires, etc. Donc ça me semblait, en fait, François Fillon était une bonne nouvelle dans ce sens qu'il pouvait redonner une force de gauche pratiquement sans que François Hollande ait besoin de bouger le petit doigt par la radicalité du programme libéral de Fillon. Mais je me suis trompé.
Oui, et a posteriori, vous voyez pourquoi vous êtes trompé ? Vous avez oublié un élément ?
Pas pour le moment. Je ne vois pas trop pourquoi. Le journal que vous avez donné tout à l'heure nous indique aussi que nous sommes dans un vertige à l'échelle européenne ou à une échelle transatlantique, puisqu'il y a Trump, il y a eu le Brexit au mois de juin dernier, il y a peut-être Renzi dimanche qui vient. Donc c'est quelque chose qui effectivement rend de plus en plus imprédictible la politique, qui n'a jamais été simple non plus. Mais là, on a perdu beaucoup de nos repères. L'explication que je pourrais tout de même donner à chaud, puisqu'on est encore à chaud ce matin, il me semble que François Hollande, ça peut paraître un paradoxe, il me semble que François Hollande a voulu protéger la fonction. Je pense qu'il a été marqué, à tous les sens du mot, par le poids de la fonction depuis qu'il est entré à l'Élysée. Il a été marqué par l'ensemble des responsabilités qui pèsent sur le président de la République. Et d'une certaine manière, en refusant d'aller à l'élection, de risquer de perdre l'élection, peut-être même de perdre les primaires, cela protège la fonction puisqu'il peut transmettre les instruments, la force de gouverner, à peu près dans un état intact à son successeur. Quel que soit son successeur, qu'il soit de gauche ou qu'il soit de droite. Je pense au fond, si vous voulez, que François Hollande sort de son mandat plus gaullien qu'il n'y entrait, c'est-à-dire plus soucieux de sauver ce qui est encore sauvable dans la situation actuelle, qui n'est pas seulement française, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas la Ve République, ce qui est encore à peu près intact, ce sont les instruments du règne.
Mais c'est paradoxal quand même ce que vous dites, Nicolas Rousselier, parce qu'a priori on protège la fonction avec son corps, avec le corps du roi, et là il la protégerait en partant, en se retirant, en disparaissant.
Oui, parce que le scénario d'un candidat sortant qui ne se fait même pas choisir dans son propre camp aux primaires de janvier, est-ce que François Hollande, depuis quelques jours, avait des chiffres confidentiels sur peut-être des sondages faits dans le cadre de la primaire socialiste de janvier ? Peut-être. Mais en tout cas, un candidat, un président sortant qui ne se fait pas élire dans des primaires de son propre camp aurait probablement encore plus affaibli non seulement son bilan, la capacité à défendre son bilan et donc finalement
un président sortant qui serait allé à une primaire, ça aurait été étrange pour la fonction, non, en question.
Absolument, c'est une sorte de piège qui s'est refermé sur lui. Dans tous les cas, la fonction était perdante. Et au fond, partir, il faut bien le dire, la queue basse, on le voyait hier même dans son langage du corps, il avait les épaules voûtées, c'était même techniquement assez triste comme spectacle. Je crois que en partant de cette manière-là, après coup, peut-être dans les livres d'histoire futurs, le paragraphe François Hollande, on lui reconnaîtra le fait d'avoir, comme on transmet un relais dans une course de relais, d'avoir transmis le bâton la fonction présidentielle à peu près intacte. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas en train de changer, mais...
Vous dites quand même deux choses un peu différentes. Vous protégez la fonction et d'un autre côté, vous dites qu'il n'avait aucune chance. Donc ça peut simplement être le calcul de n'avoir aucune chance qu'il est amené à dire « je me retire ». Vous avez l'air de lui prêter des intentions supérieures que je ne dénie pas non plus. Hein, mais...
Oui, parce que ça vient du fait que quand on a pu lire ce qu'il a pu écrire, je pense par exemple à un article qu'il a publié dans le numéro du débat du mois de septembre, c'est ça qui m'a moins frappé, c'est qu'en fait, il analyse les institutions, il n'a pas voulu finalement les modifier, il n'est pas dans le courant de modification de la démocratie représentative, il a botté en touche, il veut préserver, et je crois, si vous voulez, que tous les événements gravissimes qu'il a pu connaître, avec les problèmes des attentats, du terrorisme, a fait encore plus accentué le poids écrasant de cette fonction. De cette manière, si vous voulez, je crois qu'il a été écrasé, qui ne l'aurait pas été, par la fonction. Et au fond, le dernier geste possible, c'est de dire, dans la période hyper troublée actuelle, il faut essayer de transmettre ce qu'on peut transmettre. Mais il y a aussi une autre chose. Ça, c'est donc une autre hypothèse qui regarde plus l'histoire socialiste. C'est quand même quelque chose qu'il a dit hier, et le fait qu'il ne peut plus rassembler le socialisme. Et là, il est aussi possible que, bon, l'homme de la synthèse n'est pas possible, donc il laisse à d'autres la possibilité de la faire. À mon avis, ça ne sera pas possible non plus. Mais en tout cas, c'est aussi cet échec de l'histoire socialiste, au fond. C'est-à-dire que là, le parti est implosé de l'intérieur, puisqu'il y a plusieurs candidats, il y a les primaires... Et d'une certaine manière, le fonctionnement traditionnel qui est de trouver une motion de synthèse par le système du parti, sa capacité d'organisation, sa capacité à formater l'élection. Parce que dans la tradition, c'est le parti qui formate l'élection et non pas l'inverse. Donc là, maintenant, il est l'homme de la synthèse n'est plus possible, il s'en va. Puis une dernière hypothèse, alors là, ce serait peut-être lui accorder beaucoup, mais pourquoi pas, on le voyait hier dans le bilan qu'il faisait. C'est un bilan qu'il a, bien sûr, plutôt poussé en sa faveur, mais ça revient aussi un petit peu à dire, en tant que socialiste, qu'il a prononcé le mot hier, en tant que socialiste, voilà, j'ai pu faire avancer les choses de manière quand même très mitigée, très mesurée, j'ai tel bilan plutôt positif ici, tel bilan positif ici, ailleurs, mais voilà, faire un deuxième mandat pour finalement continuer une politique d'adaptation à des normes, par exemple européennes, de mondialisation, et finalement qui fait perdre le fil même du socialisme, qui empêche de faire du socialisme au sens fort du mot, bah peut-être qu'il n'en a pas envie. Et il faut peut-être lui accorder la sincérité de son socialisme. Je veux dire du socialisme au sens le vieux socialisme, celui qui réduit les inégalités.
Bon, s'il l'avait eu, il aurait pu l'appliquer quand même. Il était au pouvoir. Pendant 5 ans.
Nicolas Rosselier, une question sur la forme, vous l'avez évoqué, de cette intervention hier soir. On peut souligner quand même un certain sens de la dramaturgie du président de la République. Une intervention tenue secrète jusqu'au dernier moment, où chaque mot a ensuite été pesé, qui commence par égrener des promesses tenues, souligner les succès de ce quinquennat, placé sous le signe de la baisse du chômage, et qui se termine soudain par cette annonce comme quoi François Hollande ne se représenterait pas en 2017. C'était un discours éloquent pour vous ?
Il y avait une rupture, une brisure au milieu de l'éloquence, puisque...
Il y avait eu raison pendant longtemps, jusque pendant l'intervention.
Là, moi, j'écoutais comme tout le monde. Nous avons tous écouté les trois quarts.
Et on pensait qu'il y allait.
À chaque fois, c'était un argument pour dire il y va.
C'est une facétie aussi, finalement, de derrière pour finir, non ? De sa part.
Je ne sais pas. En tout cas, cela crée, et c'est ce que je voulais dire aussi, en contraste avec... entre guillemets, ce que je lui ai accordé, c'est-à-dire la volonté de défendre la fonction. En revanche, ce qui me semble négatif, c'est qu'il prive le débat de la campagne présidentielle d'une fonction essentielle de toute campagne présidentielle sous la Ve République, ou presque toute, quand il y a en tout cas un président sortant, c'est la fonction de bilan. Parce qu'au fond, dans le système de la Ve, une présidentielle, il y a un aspect projection, c'est-à-dire on se projette dans le futur mandat, on aligne la liste des promesses, et donc on réenchante la fonction d'une certaine manière, quitte à ce qu'elle soit un peu magicienne et qu'elle crée beaucoup d'illusions. Mais d'autre part, il y a une fonction qui me semble aussi importante, démocratique, je dirais même plus pédagogique, plus rationnelle, qui est de dresser le bilan. Et en dressant le bilan, on peut dire ce que l'on a fait, on peut dire ce qu'on n'a pas réussi à faire, et donc un effet pédagogique auprès des citoyens pour leur dire, bon, vous voyez, le pouvoir ne peut pas tout, Il y a des circonstances inattendues. Ça pouvait être la crise des subprimes pour Sarkozy. Là, ça a été la crise terroriste. Et donc, en fonction des circonstances, je n'ai pas pu tout faire. Voilà ce que je vous présente. Et cela fait réfléchir les citoyens. Et cette fonction de bilan, elle me semble essentielle pour à la fois comprendre ce qu'est la force de gouverner dans la Ve République et en même temps les limites de cette force. Et là, qui va...
Valls, peut-être.
Oui, mais Valls aura tout intérêt. D'abord, il faudrait qu'il passe les primaires, ce qui, à mon avis, n'est pas gagné. Monsieur Mailly disait ça tout à l'heure. Et même à l'intérieur du débat des primaires, je pense qu'il n'a pas trop intérêt non plus à être l'homme du bilan. Donc la fonction du bilan, aussi par exemple mitigée, pour rester modeste ou poli, aussi mitigée soit le bilan de François Hollande, il faut le défendre dans une démocratie. C'est le principe même de l'élection. Sinon, l'élection est une boîte de Pandore qui s'ouvre vers des promesses intenables et qui vont, au bout de quelques semaines du futur président, retomber comme un soufflet avec un effet déceptif, la désillusion, parce qu'évidemment, les promesses ne sont, enfin, les capacités de la France, notamment par rapport à l'Union européenne, ne sont pas à la hauteur de ses promesses. Donc là, moi, j'ai peur que l'élection présidentielle, finalement, fasse jouer la Ve République un peu en sur-régime.
Enfin, justement, alors Manuel Valls s'exprime en ce moment même où vous parlez. Il dit « Je défendrai le bilan de l'action de François Hollande ». Vous voyez.
D'accord.
Donc, il sera peut-être un peu obligé, malgré tout. Parce qu'il a gouverné pendant 5 ans.
Qui est quand même aussi son bilan. Oui, c'est difficile de s'en séparer.
Oui, il n'a pas gouverné pendant 5 ans. Il a été Premier ministre pendant une partie du mandat.
Mais
excusez-moi. Oui, il était dans le gouvernement depuis le début. Oui. Tout à fait. Et alors, il va reprendre ce que François Hollande a dit hier, c'est-à-dire ce qui peut être dit de positif sur le bilan, mais il ne pourra pas faire que ça. Ça me semble assez évident.
Est-ce qu'on a quand même déjà assisté à un pareil renversement? C'est-à-dire un président de la République qui, quelque part, se retire pour laisser sa place à son Premier ministre dans l'histoire de la Ve République, ou, si on remonte encore un peu plus loin, dans l'histoire de la République tout court, est-ce qu'on a déjà assisté à un tel renversement, inversement de situation?
Non, c'est pratiquement totalement inédit, mais parce que la Ve, et surtout le contexte de la Ve, a beaucoup changé. La seule comparaison qu'on pourrait faire, mais elle fera probablement hurler les tenants du gaullisme, c'est la comparaison finalement avec le départ du général de Gaulle après un référendum négatif en 69. Et au fond, il a laissé la place, non pas à son Premier ministre du moment, mais à celui qui était son dauphin, Georges Pompidou. C'est pour ça que je soulignais la protection de la fonction et l'aspect, c'est un peu un paradoxe, c'est vrai, l'aspect presque gaullien de l'acte qu'a fait Hollande hier. Mais c'est totalement inédit parce que on est dans une nouvelle forme de Ve République. C'est pas tellement les institutions qui ont changé, malgré la révision de 2008. C'est en fait l'environnement qu'on voit aussi dans d'autres pays. Des électeurs qui ne répondent plus à des cultures politiques ancrées en eux-mêmes, qui n'ont plus d'affiliation partisane ferme. De toute façon, les partis politiques sont en crise et qui créent des surprises. Si on prend les primaires de la droite, vous avez eu cette surprise des deux dernières ou trois dernières semaines avec l'augmentation de François Fillon. Moi, je prends les paris. Je ne devrais pas parce que je me suis planté.
Bon, allez-y alors.
Je prends les paris pour le mois de janvier que, en tout cas, les primaires vont être aussi extrêmement, je dirais...
Surprenantes,
spectaculaires. Je prends les paris que les débats qui vont avoir lieu à la télévision pour les primaires de la gauche vont jouer un rôle essentiel. Et que ça,
et
c'est
le
aussi...
Vous l'avez, le résultat?
Ah non. c'est aussi une nouveauté. C'est-à-dire que on se prêtait... On disait toujours que les débats lors des élections présidentielles ne changeaient pas tellement l'opinion des citoyens. Mais là, dans les primaires, oui. En tout cas, là, pour
concernant François Fillon, notamment.
Et je pense que ce sera aussi le cas pour la gauche. C'est-à-dire que peut-être que celui qui va sortir vainqueur de janvier, c'est celui ou celle qui aura été tout simplement le ou la meilleure dans le débat. J'ajouterais que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les primaires, ces primaires ont quand même redonné une force à un débat démocratique. Parce que les primaires, c'est un moment d'exposition. On peut même remarquer que cela expose des candidats très méconnus du grand public. Personne ne connaissait M. Poisson, par exemple. Bon, c'est un type d'opinion, chrétien-démocrate, ça existe. C'est une niche, mais ça existe. Ça nous fait connaître cela. Autre chose, c'est que c'est un débat contradictoire qui fait que, bon, on n'est pas comme dans un meeting ou un congrès. On ne peut pas lancer des grands slogans qui ne vont trouver aucune contradiction. Il y a les personnes qui sont là, les autres candidats. Donc, cela approfondit de ce point de vue-là la connaissance des candidats. Et aussi, même si c'est parfois assez rapide, ça approfondit la connaissance du programme.
Un peu artificiel tout de même. On l'a vu dans le dernier débat entre François Fillon et Alain Juppé. Il y avait beaucoup plus de points de rapprochement que de grandes divergences entre eux. C'est-à-dire que déjà, entre les deux tours, le parti était déjà à se rassembler derrière une sorte de programme, peut-être pas unique, mais en tout cas très ressemblant d'un côté comme de l'autre. Et on n'était plus à essayer d'afficher ou souligner les différences entre les différents candidats et donc les différents courants, les différentes tendances du parti.
Oui, moi je dirais d'un point de vue technique, c'est le débat que j'ai trouvé le moins bon des quatre débats au total. Mais tout de même, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire que c'est évidemment pas idéal, c'est assez éphémère, c'est assez rapide. Mais moi je trouve que par rapport à d'autres élections présidentielles, l'élection présidentielle classique où on n'avait pas finalement ces débats des deux premiers tours, maintenant il y a quatre tours, je trouve que on a une connaissance assez précise d'un certain nombre de débats et notamment des points clivants. Regardez par exemple comment depuis la primaire de la droite, dans les médias, mais aussi je crois dans l'opinion, on cristallise, et je crois à juste titre, sur des trois ou quatre points clivants, le programme de Fillon. Donc de ce point de vue-là, par rapport à une démocratie qui est une démocratie du public, de l'opinion, je trouve que c'est la moindre des choses.
Les partis politiques, quand même, perdent leur fonction, en partie.
Oui. Oui, mais quand il y avait des partis politiques, les congrès, sauf si on était soi-même militant d'un parti, ou en tout cas sympathisant, ces congrès passaient quand même assez loin de la tête des simples citoyens, il faut quand même bien le dire. Alors, on peut remonter même jusqu'aux années 1970, où il y avait des congrès de...
Mais c'était des citoyens engagés, justement, oui, qui étaient dans les partis. Bon, là, c'est les citoyens globalement qui, effectivement, votent...
Il n'y a jamais eu 4 millions d'adhérents à l'ancien RPR ou à l'ancien parti gaulliste. Sinon, ça se saurait, ils auraient rêvé d'en avoir autant. Ils n'en ont jamais eu, même, je pense, le quart ou le cinquième de ce chiffre de 4 millions. Donc, il y a un élargissement de la participation pour le choix du candidat. Mais déjà, à cette étape-là, je trouve qu'il y a une cristallisation sur des points du programme à partir desquels, donc, il peut y avoir, je suis peut-être un peu optimiste, mais il peut y avoir cette sorte de délibération politique à l'échelle de la nation pendant plusieurs mois.
Nicolas Rosselier, vous évoquiez le départ du général de Gaulle. Est-ce que ce renoncement de François Hollande ne nous rapproche pas aussi de la décision de Jacques Delors, il y a 22 ans, de ne pas se présenter à l'élection présidentielle? Le discours était à peu près construit, d'ailleurs, de la même manière, avec ce sentiment que toutes les conditions étaient réunies pour qu'il y aille. Et puis finalement, patatras, Jacques Delors, qui était pourtant le favori des sondages à l'époque, n'y va pas. Et ça se termine sur cette phrase qui... aurait pu sortir hier soir de la bouche de François Hollande, les déceptions de demain seraient pires que les regrets d'aujourd'hui.
Oui, mais vous venez de le dire, là, le contexte était très différent, puisque Jacques Delors était quasiment un favori des sondages. Alors là, il y avait un côté, et c'est lié aux origines et à la position personnelle de Jacques Delors, c'était le fait d'avoir un refus quasi moral, je crois, de la fonction présidentielle. Je pense qu'en fait, Jacques Delors n'était pas, loin de là, un présidentialiste, un partisan de la Ve République. Et il ne croyait pas, au fond, à la capacité d'une fonction centrale, d'un capitaine, d'un chef, à pouvoir gouverner. Et sa tradition démocrate chrétienne de gauche est rentrée en conflit, si vous voulez, avec cette opportunité. Avec François Hollande, c'est tout à fait différent. François Hollande a toujours été, dans le Parti socialiste ou à gauche, un des partisans fermes de la Ve République. Il est très prudent sur les propositions d'évolution de la démocratie représentative, les idées qui viennent de la démocratie participative, contrairement à l'aile gauche du PS, comme par exemple Benoît Hamon ou Montebourg, qui eux viennent de tout à fait autre chose, qui viennent d'un milieu critique de la Ve République. Donc là, François Hollande, si vous voulez, il n'y avait pas la stature d'une sorte de sacrifice moral que pouvait avoir Jacques Delors. Et bon, peut-être que après coup, cela, je dirais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, historiquement ça va peut-être lui bénéficier, lui être un bénéfice, mais pour le moment c'est plus pathétique qu'autre chose.
Alors qui a eu la peau politique de François Hollande? La Ve République pour vous, Nicolas Rousselier, ou son manque de charisme, son incapacité à incarner la fonction, voire son impopularité chronique?
Oui, et peut-être un peu aussi le tentative, enfin la pression mise par Manuel Valls contre lui. Moi, je dirais, si vous voulez, que probablement on retiendra de ce mandat de 5 ans que sous la Ve République, on peut avoir un présidentialisme qui reste fort par certains aspects. Pensons par exemple aux aux opérations militaires, au système de sécurité, au plan de sécurité contre le terrorisme. On a un présidentialisme qui peut rester fort avec un président faible. Et donc, c'est d'une certaine manière une bonne nouvelle pour les partisans de la Ve, pour les gaullistes. Les institutions restent en place et elles sont fortes malgré la faiblesse du capitaine. Voilà, c'est peut-être par là que François Hollande, qui quitte la fonction par manque de popularité, retrouvera une popularité, mais une popularité de papier, une popularité finalement de pure sympathie dans les mois qui viennent de la part des Français. Vous citiez tout à l'heure le sondage 80%
qui va se représenter finalement.
Il va se représenter.
Au mois de mars, il va annoncer qu'il va se représenter.
Il va se représenter du fait d'avoir retrouvé de la sympathie de ne pas être candidat. Donc c'est le
80% le candidat... donc qui approuve le discours d'hier soir et son choix de ne pas être candidat.
Non, mais d'ailleurs, on peut dire juste une chose. Moi, on a noté, enfin, les sémiologues aussi, qu'il a utilisé le mot « je » extrêmement souvent, alors qu'avant, il ne l'utilisait pas et qu'il utilisait plutôt « moi », on se souvient du « moi président ».
Ou la France.
Et finalement, que tout d'un coup, dans une intervention, il se soit ainsi impliqué, ça explique aussi que peut-être c'est ce qu'on attendait de lui, mais c'est au moment où il part, c'est-à-dire au moment où il est un sujet agissant et pas simplement un « moi » compatissant ou compréhensif.
Oui, mais je crois justement que le terme qu'il a employé de « je » en tant que socialiste, c'était vraiment le François Hollande de toujours qui parlait. Et c'est effectivement peut-être un demi-aveu que la fonction présidentielle a été extrêmement pesante. C'est pas un aveu qu'il n'était pas fait pour la fonction, mais quand même, d'une certaine manière, c'était une façon de dire... Dans les circonstances actuelles, je ne suis plus fait moi-même pour la fonction et j'ose le dire, donc je prends le jeu pour signifier cela.
Invité de France Culture, l'historien Nicolas Rousselier, maître de conférences à Sciences Po Paris, auteur notamment de La force de gouverner chez Gallimard.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
13h18, on poursuit notre réflexion au lendemain du renoncement du président de la République à se présenter en 2017. Antoine Mercier, à mes côtés, une question.
Voilà, une question. Juste d'abord vous dire que Manuel Valls dit qu'il doit défendre le bilan du quinquennat et qu'il le fera. Bon, on est vraiment là, quelques centimètres de la déclaration de candidature, ça sera sans doute pour demain. Nicolas Rousselier, comment vous expliquez ? Vous avez dit tout à l'heure que, on était surpris, qu'il y avait des situations qui étaient de plus en plus fluides. Comment vous expliquez que nous en soyons là, ce moment particulier de la vie politique où les choses sont très mobiles, où rien ne se passe comme prévu, où est-ce que c'est parce que les intermédiaires se sont dissipés ou ont été estompés que finalement on arrive à une situation très, très variable, enfin imprévisible, où tout peut se produire, on a le sentiment que tout peut se produire. Vous avez parlé pour la primaire, notamment à gauche, on ne sait pas qui peut sortir subitement. C'est un peu nouveau malgré tout, et comment vous expliquez ce phénomène assez général ?
Écoutez, je crois que quand on écrira plus tard cette histoire de la Ve République ou des années récentes, et c'est ce que disent déjà un certain nombre de politistes, ce qui change le plus, encore une fois, ce n'est pas trop les institutions elles-mêmes. Au fond, ce sont les électeurs, le caractère imprévisible de plus en plus des électeurs. C'est un petit peu comme si on était dans une démocratie où les électeurs percevaient très bien la réduction de la marge de manœuvre du pouvoir, le pouvoir national d'un gouvernement français national par rapport à l'Union européenne, le gouvernement lui-même par rapport à des impératifs qui viennent de l'économie. Les marges de manœuvre se réduisent du côté du pouvoir et des élites, et donc on se redonne des marges de manœuvre, de surprise, de contre-pied, du côté de l'élection. C'est-à-dire qu'en fait, l'élection, le pouvoir de l'élection retrouve, alors tant mieux du point de vue de la participation démocratique, le pouvoir de l'élection retrouve une force à la mesure de la faiblesse du pouvoir.
Mais c'est juste pour renverser la table, finalement.
C'est pour renverser la table, c'est pour mettre, du point de vue des électeurs de droite en tout cas, pour mettre un homme qui a fait son élection, je parle de Fillon bien sûr, qui a fait son élection sur la radicalité de son programme. C'est en quelque sorte pour dire, on essaye d'y croire encore. On essaye d'y croire encore, on veut un candidat radical qui nous fasse croire que, en réduisant de 500 000 fonctionnaires, la machine économique repartira. Donc il y a cet élément-là. On pourrait dire, on aurait pu s'attendre à ce que, au fond, nos démocraties exécutives modernes de gouvernance, où on nous explique que la moindre décision doit impliquer un très grand nombre d'acteurs. On doit consulter avant de décider, que toute décision est très difficile à implanter. On aurait pu croire qu'à travers cela, finalement, le citoyen moderne ou le citoyen postmoderne prenne conscience de la très grande complexité du pouvoir et donc se disent « bon, bah, finalement, les élections locales, la pression par des associations, des pétitions jouent un plus grand rôle dans des causes concrètes, comme Notre-Dame-des-Landes. Donc un citoyen actif est plus intéressant qu'un citoyen électeur. » Bien, en fait, non. Là aussi, c'est une surprise. C'est-à-dire qu'en fait, la démocratie représentative, par ce vieil outil qui est l'élection, le bulletin de vote, est repris à son compte de manière extrêmement fervente par les électeurs. Plus de 4 millions pour les primaires de droite et la surprise Fillon. Et
enfin, je vous le disais, amener parfois des populismes aussi.
Pardon ?
Pour amener pas forcément un projet politique réaliste. C'est ça aussi la question.
Oui, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces éléments-là donnent effectivement une force à ces réactions populistes. Oui, ça c'est... Et on le voit dans d'autres pays, on le verra peut-être dimanche en Italie.
Nicolas Rosselli, la force de gouverner, mais aussi la force de l'élection, nous dites-vous. Est-ce que depuis ce moment, en tout cas, où le président de la République est élu au suffrage universel, depuis 1962, est-ce que ce temps de l'élection n'a pas aussi ajouté, même rajouté aux attentes populaires dans la personne du président ? Est-ce qu'il n'y a pas là encore un surinvestissement qui devient de plus en plus difficile à porter au fil des quinquennats et des présidences pour l'homme qui incarne cette fonction ?
Oui, c'est-à-dire que le temps d'exposition du choix présidentiel s'est considérablement allongé. C'est-à-dire que maintenant, il occupe pratiquement la totalité d'un mandat, puisque le mandat s'est réduit de 7 à 5 ans, et que dans un mandat de 5 ans, il commence avec ses primaires, etc. Il commence bien avant la date de l'élection elle-même. Oui, donc l'élection présidentielle s'est considérablement renforcée dans le système des élections et absorbe ou assèche plus exactement les autres élections. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on peut tout à fait déplorer. On n'ose pas penser ce que vont être les élections législatives qui vont suivre les prochaines présidentielles. Alors, d'un côté, on doit constater ça, mais d'un autre côté, voilà, et surtout si on compare aux États-Unis, notre système présidentiel fait qu'on reste en quelque sorte un peu champion du monde de la participation électorale en France. Alors, de ce point de vue-là, ça reste formellement une bonne chose, et en même temps, ces élections présidentielles, avec ce casting qui s'est maintenant allongé grâce aux primaires, est très addictif, puisque effectivement, on centralise notre espoir politique sur un capitaine dont on peut penser... Est-ce qu'on le croit vraiment ? Non, on ne le croit pas totalement, mais on y croit quand même un peu. Ce capitaine va pouvoir, à lui tout seul, soit renverser la table, soit changer les choses, lutter contre la finance, ou bien lutter contre la graisse, l'État qui a cette graisse de fonctionnaires. Donc, voilà,
Sauf que cet investissement, cette hyper-présidence n'a plus les moyens de répondre à toutes ces attentes qu'on peut investir en elle aujourd'hui.
Voilà, c'est exactement...
C'est ce que vous décrivez, comme vous disiez. Oui. D'un autre côté, on voit qu'il n'y a plus de pouvoir pour les politiques, et puis les gens s'emparent de la désignation des dirigeants. Ça ne peut arriver, il ne peut arriver qu'une catastrophe avec cela, puisque précisément, il s'en empare et il n'y en a toujours pas. On est au bord peut-être d'un changement même de système. Est-ce que vous envisagez, même sur le plan démocratique, des évolutions possibles ?
Alors déjà, effectivement, comme vous venez de lire, moi je pense qu'effectivement, il y a cette sorte de spirale. C'est-à-dire que plus il y a de surinvestissement dans la fonction présidentielle, plus cette fonction présidentielle à la française... déçoit et ne peut que décevoir l'investissement initial, à un moment donné, on se demande quand est-ce que les électeurs vont se réveiller. Mais il y a certainement des choses à faire à ce moment-là pour proposer des changements, cette fois-ci institutionnels, pour que les institutions, je pense moi personnellement surtout à l'institution parlementaire, qui est pourtant très impopulaire, l'institution parlementaire pour permettre effectivement de retrouver un sens du travail politique qui soit à la fois plus concret et plus consistant que simplement le choix d'un capitaine à partir d'une plateforme de promesses qui amène ensuite un cycle déceptif.
D'où l'intérêt des corps intermédiaires en général entre précisément le pouvoir et les citoyens.
Oui, absolument. On entendait M. Mailly tout à l'heure en tant que syndicaliste. C'est effectivement très important. Lui-même disait que la façon dont la loi El Khomri a été faite aurait court-circuité les corps intermédiaires. Elle a aussi court-circuité le corps parlementaire lui-même, et au bout du compte, elle court-circuite le travail politique. C'est-à-dire qu'une société politique doit pouvoir travailler ses débats politiques. Il faut donner du temps à ce travail politique. Et ça n'est pas par, effectivement, une élection présidentielle, aussi spectaculaire soit-elle, qu'on peut faire ce travail politique.
Un départ, celui de François Hollande, qui restera peut-être dans les livres d'histoire, disiez-vous au tout début de cet entretien, Nicolas Rousseauly, en 1981. Valéry Giscard d'Estaing ne renonce pas. Il perd au deuxième tour contre François Mitterrand et prononce un discours de fin de mandat sur, non pas France 2, mais Antenne 2, qui restera lui éternel. Au revoir, dit-il, c'est notre archive du jour.
Française, Français, il y a 7 ans, le peuple français me confiait la destinée de notre pays. Cela a été un grand honneur pour moi de le diriger dans un monde difficile, dangereux, aux prises avec une crise économique, sociale et morale sans précédent depuis 50 ans. En ce jour, qui marque pour beaucoup le terme de grandes espérances. Je sais que vous êtes nombreux à partager mon émotion. Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance. Et dans ces temps difficiles, où le mal rôde et frappe dans le monde, je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur, pour son bien et pour sa grandeur. Au revoir.
Voilà Nicolas Rousseauly, Valéry Giscard d'Estaing qui part et qui laisse une chaise vide. François Hollande va-t-il laisser la chaise aussi vide ou la compétition va être maintenant féroce pour pouvoir occuper le trône ?
En tout cas, le décor hier était totalement différent du décor de Valéry Giscard d'Estaing. Hier, c'était une sorte de studio, on ne voyait pas le salon élyséen, on ne voyait donc pas la fonction qu'il était en train de quitter. Et là, il suffit de regarder ce que vient de dire Manuel Valls et les autres candidats, il y a beaucoup de monde pour... occuper ce trône
trop
plein et qui pourtant est un trône qui ne peut, à mon avis, qu'amener beaucoup de déceptions.
Qui est de moins en moins enviable, dites-vous. Merci beaucoup Nicolas Rousseauly d'être venu jusqu'à nous, au Déboté, spontanément, auteur de La force de gouverner, paru chez Gallimard. Un grand merci aussi à toute l'équipe de La Grande Table. Nous sommes vendredi, que je retrouverai avec grand plaisir lundi. Claire Maillot, Clémence Marie, Jean-Christophe Brianchon, Henri Leblanc et Antoine Tricot. Aux manettes ce vendredi, Perret Legras avec Bruno Gagnère. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre page à l'adresse de franceculture.fr. Je vous dis à lundi avec Rodolphe Burger qui signe la musique du spectacle Ludwig, un roi sur la lune, et avec l'économiste en deuxième partie Nicolas Bouzou pour son essai L'innovation sauvera le monde. Ah bon ? À suivre lundi et d'ici là, très bon week-end sur notre antenne.